Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à tous pour notre célébration de ce matin. Bienvenue à vous qui êtes en ligne. On se réjouit de pouvoir célébrer le Seigneur ensemble ce matin. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, un sujet de joie. Bon culte, bonne célébration à chacun et chacune.
Bonjour les amis, bonjour chers internautes. On va louer le Seigneur tous ensemble. Donc si vous le voulez bien, vous pouvez vous mettre debout. Donc c'est comme vous voulez, sentez-vous libre dans la présence du Seigneur. On va le louer, l'exalter. Entrons dans ses portes avec des cantiques, chantons ses louanges. À ses pieds déposons nos fardeaux, il nous donne sa paix. Tous en cœur approchons-nous de son trône avec repentance. Considérons l'amour de Dieu, grand et glorieux. Nous sommes venus pour te louer, rassemblez-nous, te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Parmi nous, nous préparons nos esprits à entendre ta voix souveraine. Que ta puissance et ta sainteté resplendissent dans ce lieu. Nous sommes venus pour te louer, rassemblez-nous, te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu parmi nous. Tu es le bienvenu, Seigneur. Nous chantons à la gloire de ton nom, tu ressuscité. Toi le Saint, le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place ensemble. Nous chantons à la gloire de ton nom, Dieu ressuscité. Toi le Saint, le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous sommes venus pour te louer, rassemblez-nous, te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Tu es le
bienvenu, tu es le bienvenu, parmi nous.
gloire à toi, Seigneur. C'est toi qui console les vies. C'est toi, ô Dieu de grâce, qui nous restaure. C'est toi, ô Dieu de grâce, qui nous donne la joie de vivre. Nous voulons une fois de plus t'élever dans nos chants. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son de nos cœurs. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Oh oui, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Yeah, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Seigneur, nous sommes dans la joie, dans ta présence. Nous nous sentons dans notre maison. Nous allons une fois de plus t'élever en te voyant. Te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Oh, sois le bienvenu, Jésus. Tu es le Dieu capable. Nous voulons une fois de plus le déclarer. Quand nous avons les montagnes qui se positionnent au devant de notre chemin, nous voulons déclarer que tu es capable. Tu es capable de créer un chemin où il n'y a pas moyen de le faire. Nous te bénissons pour cela, Seigneur, et nous voulons une fois de plus t'adorer. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Dieu est capable, on répond. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi, oui, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Ce qu'il dit s'accomplira dans ta vie. Il fera. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il fera. Garde la foi, garde. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Une dernière fois. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Gloire à toi, Seigneur. Tu es notre souffle de vie. Merci, Seigneur. Merci, ô roi des rois, parce que par ta mort sur la croix, tu nous as rachetés, Seigneur. Tu nous as ouvert la porte, le chemin qui avait été fermé au Seigneur, le chemin qui mène au Père, le chemin qui mène à la vie. Nous voulons une fois de plus te louer, t'exalter pour cela, Seigneur. Merci, Père. Souffle de vie, viens remplir nos cœurs de ta paix, de ta joie. Souffle de Dieu, viens changer nos vies par ta force, par ta grâce, vivifie.
Vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit descend et conduis-nous. Souffle de vie, répands tes eaux vives dans nos cœurs, dans nos âmes. Souffle de feu, viens brûler en nous, ranime nos âmes pour te louer. Vivifie-nous, esprit d'amour. Crée en nous un cœur pur, que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit descend et conduis-nous.
Conduis-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Souffle de vie, souffle de feu.
Vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur. Vivifie-nous, vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur. Vivifie-nous, vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur. Que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit descend et
conduis-nous.
Que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit descend et conduis-nous.
Nous voulons vivre ensemble un temps de connexion avec le Seigneur ce matin. Au-delà de ce chant, souffle de vie, c'est peut-être le moment de se poser et de faire monter vers le Seigneur notre prière intérieure. Disons, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin d'être ressourcé dans ta présence. C'est avec l'Église, c'est avec les frères et sœurs que tu viens devant le Seigneur. Et tous ensemble, nous bénéficions de la communion avec le Seigneur. Prenons notre place simplement là ce matin, devant notre Père céleste. Il est bon, il est juste, il est fidèle. Et si nous avons commis quelque péché que ce soit, la Bible dit, si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Venons avec assurance dans sa présence. Venons convaincus qu'il nous aime et qu'il nous pardonne dès lors que nous nous approchons de lui avec un cœur repentant et sincère. Venons dans sa présence, louons-le ensemble, bénissons notre Dieu, il est le fidèle, il est le juste, Il est grand, il est puissant, mais il est aussi proche de celui qui l'invoque, de celui qui le cherche et de celui qui tend la main vers lui. La sienne est déjà tendue depuis longtemps. Venez, venons, bénissons le Seigneur. Alléluia. Te remercions, Seigneur, pour ces chants qui t'élèvent, mais qui nous permettent aussi de nous approcher de toi. Tu es bon, Seigneur, et nous voulons ensemble, en tant qu'Église de Jésus-Christ, te célébrer aujourd'hui. Personnellement, individuellement, nous nous approchons aussi chacun, chacune de toi, pour être renouvelés, ressourcés dans ce temps de relation avec toi, mais aussi tous ensemble. Nous te louons et nous te célébrons, car tu es juste, tu es bon, et tu es digne de recevoir notre louange. Amen. Amen.
Vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur. Vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur. Vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur.
Une dernière fois, vivifie.
Vivifie-nous, esprit d'amour,
merci Seigneur, parce que tu es ressuscité, ô roi des rois. Nous voulons nous réjouir dans ta présence, Père, pour cela.
Elle est belle, mon Église. Elle est magnifique. Elle est superbe. Elle s'est parée comme une épouse qui se prépare pour son époux. Elle a mis des joyaux les plus beaux, les plus magnifiques, parce que je l'en ai parée, dit le Seigneur. Et je la vois. Je la vois, je l'aime et je la contemple. Mais ce matin, ce que je dis à mon Église, c'est que je veux qu'elle se garde de tout péché, de tout mal. Je veux qu'elle soit remplie du Saint-Esprit pour pouvoir tenir dans ces temps de la fin. Vous savez, mes enfants, vous savez combien le diable est subtil, il rôde autour de vous. Oh, vous, mes enfants, la jeunesse, je vous prie, je vous en supplie, tournez les regards vers moi, vous êtes fragiles, vous êtes sensibles. Tournez les regards vers moi, implorez-moi, demandez-moi de vous envoyer le Saint-Esprit et je vous le donnerai. Parce que je la veux belle, mon épouse, et je la vois comme ça, parée de diamants, parée de beaux joyaux, parce qu'elle m'aime, parce que je l'aime, elle est à moi, et nul ne la ravira de ma main, parce que je l'ai cru jetée par mon sang à la croix du calvaire. Gardez-vous de tout mal, dit le Seigneur, tournez les regards vers moi, et surtout, surtout, implorez-moi, demandez-moi de vous revêtir du Saint-Esprit pour que vous puissiez tenir jusqu'à la fin. Je suis là, je veux votre bien, je vous veux avec moi, dit le Seigneur. C'est tout ce que je veux pour vous, dit le Seigneur. Amen.
Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, honneur et de puissance. Alléluia. Alléluia, alléluia, sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé.
Gloire et puissance.
Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé, grand et puissant, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé, grand et puissant, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais, grand et puissant, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus élevé. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Allez, alléluia, alléluia, alléluia. Tu es saint, tu es saint. Tu t'es abaissé. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie. Alléluia, alléluia, tu es saint. Alléluia. 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 Tu es saint. Tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens. Pardonner, je viens avec tous les saints. Chante et tu reviens. Alléluia. Et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité. Et tu vis à jamais. Élevé, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Une dernière fois élevé, élevé, glorifié. Tu es ressuscité et tu vis à jamais.
Ce qu'on vient de chanter, élever Jésus, chacun peut-être avec ses propres mots, ses propres paroles, tous ensemble comme un bouquet, faisons monter notre louange vers le Seigneur. Il est élevé, il est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous, il est en nous, il vit et il règne. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur, nous te remercions pour ton œuvre à la croix, nous te remercions d'avoir donné ta vie, de t'être sacrifié pour le pardon de mes péchés et de me permettre d'être un enfant de Dieu. Merci, louange, honneur, gloire. À toi la souveraineté, à toi le règne. Que ton règne vienne, Seigneur, dans ma vie, dans nos cœurs, dans l'Église. Merci pour la parole aussi de tout à l'heure. Merci de venir régner, prendre ta place, alors que nous célébrons ton nom et que nous t'élevons tous ensemble. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut offrir un applaudissement au Seigneur? Il est bon. Il règne.
Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Quelques annonces avant d'entrer dans le thème et le message que Dieu a mis sur mon cœur pour aujourd'hui. Quelques annonces concernant notre vie d'église dans la semaine. Voilà les choses qui se passent. Donc, il y a la sortie Acrobranche pour le groupe 30-45 ans. Alors normalement il y a les annonces, je ne sais pas si on a l'affiche, il y a en tout cas Grégory qui se tiendra à la sortie. Donc pour tous ceux, les 30-45 ans qui ont envie d'aller faire un peu de sport et puis vivre la koinonia ensemble, n'hésitez pas à aller voir Grégory qui se tiendra pour vous à la sortie de la célébration. Il y a également une sortie contact de rue le samedi 27 mai de 10h à 11h30. Alors si vous avez envie de partager l'évangile dans la rue avec toute l'équipe de Königshofen, le rendez-vous est au 30 rue Tite-Live à 8h30 pour un petit déjeuner. Puis ensuite à 10h, vous partez dans la rue pour échanger avec nos contemporains. Dimanche prochain, on aura une célébration spéciale autour du thème de la fidélité de Dieu et de la Pentecôte. Et cette célébration sera animée avec les enfants. Amen. Est-ce qu'on est une église qui se réjouit quand jeunes et vieux se réjouissent ensemble et servent le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Donc dimanche prochain, 10h, célébration animée par toute l'équipe d'épisodes. On continue dans les annonces, on arrive au mois de juin, il commence à faire beau et c'est le temps d'aller marcher, de s'aérer. Ça tombe bien, il y a la marche pour Jésus le samedi 3 juin, il y a un visuel qui doit arriver normalement. Il y aura une rencontre de prière et de présentation de la marche aussi qui aura lieu le 31 mai à 20h à l'EPI. Si vous êtes intéressé pour savoir un petit peu les infos, rendez-vous à l'EPI mercredi 31 mai à 20h pour voir toute la présentation de ce qui va être fait pendant cette marche. Le dimanche, on aura un service de baptême. Merci pour la personne qui dit amen. Est-ce qu'il y a une église qui se réjouit de ce que des hommes et des femmes font la paix, font alliance avec Jésus, reçoivent ce plus beau des cadeaux, ce sacrifice à la croix, une célébration où on aura, je ne sais plus, de mémoire 10 ou 11 baptêmes, mais on veut vraiment se réjouir, ça va être un temps de fête, encore un temps où les familles seront là. Vraiment, ne manquons pas ce moment pour les entourer et les accueillir dans la maison. Ensuite, les 10 et 11 juin, vous le savez, on vous l'annonce depuis quelques temps, nous avons le festival évangélique d'Alsace qui va réunir les églises du 68, du 67 au parc de la Citadelle. Ça va être un gros événement, il y aura de la célébration, il y aura aussi une mise en avant de tout ce qui est fait au niveau du social, notamment avec le sel parrainage. Mais pour qu'un événement de cette ampleur puisse fonctionner, on a besoin de bénévoles. Et l'équipe d'organisation cherche des bénévoles. Alors si vous avez un peu du temps à consacrer, que ce soit pour l'accueil, pour la buvette, pour le programme, pour les enfants, n'hésitez pas à flasher ce QR code, vous pourrez le retrouver aussi sur le site internet. Mais vous pouvez prendre les infos. Si vous avez du temps à donner durant ce week-end, allez-y, remplissez les formulaires et vous pourrez aider à ce qu'on vive une belle fête tous ensemble. Amen. Amen. L'ascension, notre bénédiction. C'est le thème que j'ai eu à cœur de partager avec vous. Nous sommes dans le quatrième jour du week-end de l'ascension. Vous savez, ce grand pont où on peut se reposer. Loin du patron, loin des collègues, loin de la pression du travail. Loin des enfants qui sont partis pour nos jeunes de 12 à 18 ans à Clermont-Ferrand avec 6500 jeunes pour le congrès éco. Ouah, les parents peuvent souffler, nos enfants sont partis louer Jésus, l'adorer, peut-être donner leur vie à Jésus. Quel temps magnifique, un pont de l'ascension pour souffler. Pourtant, j'aimerais voir avec vous ce matin que l'ascension, c'est bien plus qu'un temps de repos pour chacun d'entre nous. Si l'ascension nous parle du moment où Jésus, après sa victoire sur la croix et la résurrection, a rejoint le Père dans son ciel et a entamé son règne avec lui à ses côtés, je crois que l'ascension a des répercussions pour son Église. Pourquoi ? Parce que l'ascension annonce que Dieu ne sera plus seulement désormais avec nous, mais qu'il vivra en nous par son Esprit. Amen. C'est le message de l'ascension, c'est le message que l'ascension annonce. Alors oui, ce matin, on va voir que l'ascension n'est pas un pont pour l'inaction, mais elle est une annonce, elle annonce l'onction pour la mission. Quelqu'un devrait dire amen. Elle annonce l'onction pour la mission. Elle est une bénédiction non pour la procrastination, mais pour l'action. On va lire un passage dans l'évangile de Jean ce matin qui se situe dans ce discours d'adieu à ses disciples avant qu'il donne sa vie à la croix, mais qui va annoncer les raisons de l'ascension. Et on commence la lecture dans Jean 16, les versets 4, la deuxième partie, et jusqu'au verset 6. C'est Jésus qui parle et dit « Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Mais où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. » Le premier point que je veux voir avec vous ce matin, c'est que la mission est plus grande que nos raisons. La mission est plus grande que nos raisons. Dans les versets juste avant ce passage, Jésus explique à ses disciples qu'ils vont être persécutés à cause de leur foi, qu'ils vont subir les coups, la violence, les insultes, peut-être même la mort, à cause du nom de Jésus, parce qu'ils ont la foi en Christ. Mais au-delà de ça, malgré cela, malgré le fait que Jésus a fait des miracles et que ces gens l'ont haï, ils n'ont pas reconnu qui il était, Jésus appelle son église alors que lui annonce qu'il va partir. Il appelle ses disciples à prendre le relais en tant que témoin de qui il est. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va leur expliquer qu'il ne leur avait pas parlé de toutes ces choses avant. En effet, lorsque les disciples étaient avec Jésus, ils n'avaient pas besoin de trop penser à la persécution ou à la mission. Ils avaient juste à suivre Jésus, ils avaient juste à l'écouter, ils avaient juste à lui faire confiance. Mais à ce moment-là, Jésus annonce un changement. Leur rôle va changer. Jésus leur annonce qu'il ne sera plus physiquement avec eux et que c'est à eux maintenant d'aller faire de nouveaux disciples. Vous savez, c'est un peu comme lorsqu'on était enfant. Vous savez, quand on était enfant, on n'avait pas besoin de mettre le réveil pour aller à l'école. On pouvait dormir paisiblement parce qu'on savait qu'il y avait papa ou maman qui allait arriver à une certaine heure pour dire « il faut se lever, il faut aller en cours ». On n'avait pas le stress de savoir s'il allait avoir des bouchons ou quoi que ce soit. On faisait juste confiance à nos parents. Et puis, un jour, la vie d'adulte est arrivée. Et là, la veille, il faut penser à mettre le réveil pour anticiper les éventuels bouchons et les problèmes de transport. Parce qu'on sait que si on est en retard, on va devoir aller voir le patron et lui dire « je suis désolé, je suis en retard pour ceci ou pour telle raison ». Et puis, bien souvent, quand on commence à cumuler les retards, on risque un avertissement. Ok ? Quand on est enfant, c'est pas grave, maman va faire un mot. Elle va expliquer pourquoi on est en retard. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Ils étaient un peu dans cette démarche. Leur rôle allait changer. De suiveurs, ils allaient devenir des leaders. Et notre passage nous montre que ça ne les enchantait guère. Et on voit, parce que Jésus les reprend en disant « Mais aucun de vous me demande, où vas-tu ?» En fait, il est en train de dire mais personne ne se demande où est-ce que je vais. Personne ne s'intéresse à savoir ce qui va m'arriver. En effet, on sait que Judas, juste avant, avait quitté la pièce pour aller rejoindre ceux qui allaient capturer Jésus et qui allaient finir par le crucifier. En fait, les disciples étaient fixés sur leur perte. Ils étaient que sur eux-mêmes, la perte que ça allait engendrer chez eux. Ils n'arrivaient pas à s'intéresser à Jésus parce qu'ils étaient fixés sur cette perte. On va se retrouver tout seul. Jésus ne sera plus là. On va être en danger. On ne va plus être en sécurité. On va être la cible maintenant. Alors Jésus ne va pas les réprimander parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils ont du chagrin, non. Mais il va les réprimander parce que l'enjeu de la mort de Jésus sur la croix pour payer le prix des fautes de l'humanité est plus grand que leur petit confort ou leur sécurité. Le théologien David Platt a écrit un commentaire sur l'évangile de Jean et il dit la chose suivante. La mission qu'il leur confie en tant que témoin est bien plus grande que leurs espoirs et leurs rêves. On est bien loin ici d'un évangile centré sur notre réussite personnelle, centré sur ce que je vais pouvoir accomplir et combien les gens vont être à mes genoux. Une mission plus grande que nos intérêts, une mission plus grande que nos raisons. Je reviens à l'histoire du réveil à la petite enfance. Il y a bien des adultes qui voudraient rester comme des enfants. Vous savez, passé toute sa vie à fuir ses responsabilités, à fuir les conséquences de nos choix. Mais mes amis, nous ne sommes pas appelés à être des petits enfants dans nos raisonnements, à vivre dans le confort et de la sécurité que papa et maman peuvent nous donner. Mais nous sommes appelés à prendre notre vie en main. Et ça, ça concerne aussi notre mission en tant que disciples de Jésus. Vous savez, il y a une tendance forte dans nos milieux évangéliques à ce que les gens viennent à Jésus pour ce qu'il peut leur apporter. Succès, sécurité, santé, prospérité, etc. Alors quand je dis tout ça, je ne suis pas en train de dire que ces choses sont mauvaises. Je suis en train de dire que ces choses sont mauvaises si c'est le but de notre vie. La sécurité, la prospérité, etc. Parce qu'on prend Jésus pour un distributeur. On ne le prend pas pour le Dieu qu'il est, le Sauveur qu'il est. Mes amis, notre priorité, c'est Jésus et son royaume. C'est Jésus et son royaume sur la ville de Strasbourg. C'est Jésus et son royaume sur notre département. C'est Jésus et son royaume sur notre pays de France. La mission, c'est être des témoins de Christ dans notre génération. Et ça, ça vaut la peine parfois de renoncer un petit peu à notre commodité et à notre confort, comme la sécurité et la stabilité, pour investir dans quelque chose qui va faire la différence de manière éternelle. Des hommes et des femmes dont la vie est transformée par le Christ, par son message, des hommes et des femmes pardonnés et transformés. Pourquoi ? Parce que vous aurez investi du temps, parce que vous aurez investi de l'énergie, parce que vous aurez investi peut-être même de vos finances pour voir ces choses. Mais pour pouvoir relever ce défi, Jésus va leur envoyer une aide. Et c'est mon deuxième point ce matin, l'onction pour accomplir la mission. On continue la lecture au verset 7. Jésus dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. » Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince du monde est jugé. Voilà la raison de l'ascension. Lorsque Jésus marchait sur la terre, il ne pouvait pas être à plusieurs endroits à la fois. Il était limité par le corps physique qu'il avait. Mais au travers de l'envoi du défenseur, le Saint-Esprit, Jésus est présent partout dans le monde grâce au Saint-Esprit dans chacun de ses disciples. Amen. On a été choisis, mes amis, pour porter le fruit de l'Évangile dans notre vie et partager ce message à nos contemporains. On a été appelés à poursuivre la mission de Jésus. On a été appelés à faire des disciples. Jésus s'en allait à ce moment-là, mais pas ses disciples. Ses disciples restaient. Mes amis, cette mission, elle est tellement grande qu'elle nécessite une aide surnaturelle. Et le terme « défenseur » qui est employé ici, dans d'autres versions, vous avez le mot « consolateur », c'est le terme en grec « parakletos ». Parakletos, il est composé de « kaleo » appelé et de « para » auprès d'eux. Et ça fait allusion à quelqu'un qui est appelé pour aider ou pour défendre une personne. Le parakletos, qui s'emploie en grec dans le domaine légal, dans le domaine de la justice, désigne la personne qui vient aider, apporter son concours à un individu qui est engagé dans un procès. Et ça, c'est tout le thème développé dans l'évangile de Jean, qui va clarifier le sens de l'expression. Il est largement reconnu que le thème du procès qui est intenté à Jésus sert de fil conducteur dans tout l'évangile. Jean va présenter les rapports entre Jésus avec ses adversaires sous la forme d'un procès qui va aboutir par la condamnation de Jésus par les autorités israélites. La mission des apôtres après son départ consistera à poursuivre la défense de la cause de Jésus dans le procès qui l'oppose au monde. Le théologien français Sylvain Romerovski dira la chose suivante : Jésus attribue à l'Esprit, comme Paraclétos, la fonction d'enseigner les disciples, de leur révéler sa personne et la signification de son œuvre, davantage que de les consoler. Le sens d'aide, d'avocat, d'ami, avec une connotation légale. Alors ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas un consolateur. Partout dans la Bible, nous voyons des références où Dieu vient nous consoler. Mais lorsqu'on parle du Saint-Esprit comme consolateur, ce n'est pas celui qui vient là pour nous cajoler. C'est celui qui vient nous donner les forces de continuer à être témoins de Jésus, malgré l'opposition, malgré les insultes, malgré les crachats. malgré le fait qu'on va se moquer parfois de nous, qu'on va mettre notre foi, on va ridiculiser notre foi. C'est pour ça qu'on parle du défenseur, et dans les nouvelles versions, on voit souvent le mot défenseur, parce qu'on parle de justice, c'est pas celui qui vient panser nos bobos. Ça, il le fait ailleurs. Mais quand on parle de la venue du Saint-Esprit, là, c'est pour la mission. C'est pour être des témoins. C'est dans ce contexte-là. Ça nous parle des forces que le Saint-Esprit nous communique, de l'enseignement qu'il nous transmet sur Jésus et son œuvre, afin que nous poursuivions la course, afin que nous poursuivions notre rôle de témoin à nos contemporains, et qu'on puisse lutter quand l'opposition fait rage et qu'on aura envie de lâcher l'affaire et dire « à quoi bon ?» À quoi bon continuer à parler de Jésus ? Je préfère ma vie tranquille. Je préfère ne rien dire et vivre tranquille. Vous savez, je me rappelle, il y a quelques années, alors je pense que je vous l'ai déjà dit, je commence à radoter, vous savez, je commence à vieillir. On partait en vacances avec mon épouse, et puis on partait en Ardèche, et on prend un hôtel au sud de Lyon, dans la nuit, pour couper la route en deux. Puis là, on arrive à minuit, on est fatigué, et puis là, on arrive et la chambre, elle n'est pas faite, quoi. Il y avait des mégots, les draps n'étaient pas changés, etc. Puis Jeanne leur a dit, c'est bon, je vais à la voiture, je vais chercher les sacs de couchage. Je fais, tu rigoles ? Je vais appeler la réception tout de suite. Donc elle leur appelle la réception, il y a une dame qui monte et elle s'excuse, etc. Elle nous change de chambre et voilà, elle nous met dans une bonne chambre nettoyée. Et puis le lendemain matin, on se lève et je pense à cette dame qui est venue en pleine nuit à la rescousse. Il y a quelque chose dans mon cœur qui dit, il faut que tu lui donnes un évangile. Il faut que tu lui parles de l'amour de Dieu. Et puis ça ne me lâche pas, ça ne me lâche pas, ça ne me lâche pas. Alors vous savez comment on est quand c'est comme ça. Bon Seigneur, si c'est vraiment toi, fais qu'elle soit à la réception, au moment où on va aller petit déjeuner. Et je me dis, vu qu'elle était là à minuit, elle sera plus là à 8h. Et donc du coup, on passe à 8h. Et puis là, bien sûr, tout sourire. Bonjour, avez-vous bien dormi, etc. Puis on va déjeuner. Et puis alors, elle me parle. Mais pendant tout le déjeuner, je pense à ça, ça m'omnibule. Là, cette pensée, il faut que tu lui parles de Jésus. Là. Et puis du coup, je pars à la voiture. Je vais chercher un évangile. Un évangile de Jean, d'ailleurs. Et puis... je lui dis combien Jésus l'aime et combien il y a une parole pour elle, et puis je lui laisse ça. Vous savez, le Saint-Esprit va nous pousser parfois. Il va nous travailler parce qu'il veut nous utiliser pour sa mission. Alors, ça ne nous arrive pas comme ça, de cette manière tout le temps, mais je crois qu'il y a des moments, des fois. On ne sait pas, je ne connais pas cette femme, je ne l'ai jamais revue, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le Saint-Esprit, lui, nous pousse à des moments particuliers. On doit être à l'écoute parce que c'est pour la mission qu'il nous appelle. C'est pour la mission qu'il nous appelle. Jésus va nous pousser à poursuivre la mission de rendre témoignage à son œuvre, de rendre témoignage à nos contemporains, à ceux qui nous entourent. Celle-là, elle va être dure. David Platt, nouvelle citation. « Jésus n'envoie pas le Saint-Esprit pour que nous ayons un majordome invisible qui nous apporte des boissons fraîches pendant que nous nous prélassons autour de la piscine. Il envoie l'Esprit pour nous donner les moyens d'accomplir sa mission. » Comment regardons-nous le Saint-Esprit ? Est-ce que nous prenons Dieu pour un distributeur, pour répondre à nos besoins ? Ou est-ce que nous comprenons qu'il nous intègre à sa mission pour être ses pieds et ses mains en action dans une société en souffrance et qui a besoin de la croix, qui a besoin de l'œuvre de Jésus ? Le Saint-Esprit en nous n'a pas pour vocation première notre confort, mais les gens du dehors. Pas notre confort, mais les gens du dehors. Troisième point ce matin, une mission de conviction. À partir de maintenant, Jésus va expliquer, va décrire la mission de conviction de l'Esprit. Il convaincra le monde de péché, de justice et de... Voilà. Allez-y, vous avez le droit d'être sûr, hein, de jugement. C'est intéressant de voir que lorsque Jésus parle du péché, de la conviction du péché, il dit « parce qu'il ne croit pas en moi ». Bien souvent, les gens autour de nous disent « Mais moi, j'ai pas besoin d'un sacrifice ou quoi que ce soit, je suis une bonne personne. Moi, je suis quelqu'un de bien. » Puis des fois, les chrétiens, on est comme ça aussi, on dit « Ah, oh, cette personne, elle est vraiment bien, il ne lui manque plus que Jésus. » C'est complètement faux, mes amis. C'est complètement faux. C'est pas une bonne personne. La Bible dit que nous sommes tous des mauvaises personnes, privées de la gloire de Dieu. Ça veut pas dire que des mauvaises personnes font pas des bonnes choses. On peut tous faire des bonnes choses aux gens qu'on aime bien, etc. Puis il y a des gens qui sont portés par des valeurs, etc., sans avoir la foi. Mais la Bible dit qu'on est tous des mauvaises personnes. On est tous égoïstes, égocentriques. Et parfois même, on va faire des bonnes choses pour de mauvaises raisons. Histoire d'être vu, regardez comment je suis fort, regardez comment je suis grand, regardez comment je suis bon. Bonne chose, mauvaise raison, mauvaise intention. pour être aimé, pour chercher à être accepté. Jésus est venu donner sa vie pour payer le prix de notre orgueil et du mal qui est à la fois intérieur et extérieur à nous. Afin que nous puissions être réconciliés, qu'il puisse faire de nous sa demeure par son esprit et que nous puissions vivre pour ce pourquoi nous avons été créés, créés à son image, à sa ressemblance, pour vivre sa vie dans nos pensées et dans nos actions. Et son esprit nous aide à cela. Son esprit nous pousse, son esprit nous influence, son esprit nous encourage, son esprit nous interpelle dans ce but. Croire en Jésus, c'est reconnaître aussi ses affirmations concernant notre culpabilité et notre besoin de lui. Tu peux regarder ton voisin et lui dire « tu as besoin de Jésus ». Et vous avez le droit de me regarder et dire « tu as besoin de Jésus ». Il n'y a pas de bonne personne ici. Vous savez, l'incrédulité, le fait de ne pas avoir la foi, ça n'entraîne pas seulement une condamnation. Mais l'incrédulité produit l'ignorance de notre besoin. Ça va nous aveugler quant à notre condition. Vous savez, on est un peu, vous connaissez la fable de la grenouille ? Vous savez, on met une grenouille dans une casserole d'eau chaude, puis on va commencer à monter le thermostat. Et elle est tellement bien dans l'eau qu'elle en oublie même le problème dans lequel elle est. Elle est en train de mourir. Et on est comme cette grenouille, aveuglée. Aveuglée par rapport à notre condition. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Le terme convaincre qu'on trouve ici, on le retrouve 18 fois dans le Nouveau Testament. Et il se rapporte au fait de révéler à quelqu'un son péché, et le plus souvent avec un appel à la repentance. La repentance, c'est quoi ? C'est un changement de mentalité, un changement de direction, une prise de conscience qui nous pousse à l'action. Un changement de mentalité. J'ai un problème. J'ai besoin de me tourner vers la solution qui est Jésus. C'est ça la repentance. Don Carson, le théologien, dira « Cette œuvre de conviction du paraclet, donc le paraclet c'est le terme grec qu'on a employé tout à l'heure pour parler du défenseur, procède de pure grâce. Elle vise à amener les hommes et les femmes du monde à reconnaître leurs besoins, à venir à Jésus et par là même à cesser d'être le monde. » Ensuite, il y a une deuxième conviction que le Saint-Esprit fait, c'est la conviction de justice. Et là, Jésus va faire le lien avec son départ au ciel. Là encore, il veut confronter la justice des hommes. Vous savez, tout au long de l'évangile de Jean, on trouve deux justices, deux types de justice. L'une de ces justices, elle est celle de l'homme en dehors de Dieu, une justice personnelle. Et l'autre, c'est celle de la justice de Dieu. Et on voit que ces deux types de justice, ça va souvent entrer en conflit. Par exemple, au chapitre 9 de l'évangile de Jean, Jésus va guérir un aveugle, oh là là, le jour du sabbat. Les chefs juifs ont condamné Jésus et se sont présentés comme des justes défenseurs de la loi de Dieu. Mais en réalité, ils étaient plus préoccupés par leur image publique que par l'aide apportée à ceux qui étaient dans le besoin à ce moment-là. Une fausse justice, une tentative de gagner la faveur de Dieu par ses efforts humains. Et cette tentation, elle est toujours présente, mes amis. Une justice humaine. Les scribes et les religieux de l'époque se pensaient justes. Les règles que les pharisiens avaient édictées étaient scrupuleusement observées, alors que Jésus était condamné pour avoir guéri un malade un jour de sabbat. Ils avaient la loi de Moïse, pourtant ils cherchaient à faire mourir Jésus. Lorsque Jésus meurt sur la croix, ils pensent avoir accompli la justice, on a fait ce qu'il fallait, en prenant la défense de Dieu contre cet imposteur de Jésus. Alors que justement, sa résurrection et son ascension prouvent que le jugement et la condamnation des hommes qu'il a subi n'étaient pas justes, mais que Jésus était bien juste aux yeux de Dieu. La mort n'a pas pu le tenir captif parce qu'il était juste aux yeux de Dieu. En ressuscitant Christ d'entre les morts, l'Esprit de Dieu convainc les gens que leur justice elle est mauvaise ou insuffisante et qu'ils ont besoin de cette justice de Jésus qui a pris la condamnation à notre place. Et regardez, c'est intéressant parce qu'on voit encore le relais qui nous passe. Jésus dit « la justice parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus ». Il est en train de parler du monde et là il dit « vous », il s'adresse à ses disciples. Il dit « c'est votre mission maintenant, par le Saint-Esprit qui est en vous, d'attester que Dieu a ressuscité ce Jésus ». qu'il a fait justice et qu'il a proclamé qu'il était le juste. C'est notre mission. La logique aurait voulu dire qu'ils ne me verront plus, mais il dit non, vous ne me verrez plus. Il s'adresse à ses disciples. C'est notre mission. Dans Romains 8, 11, Paul soulignera que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il habite en qui ? Il habite en nous. Cet esprit de vie peut donc convaincre, comme il l'a fait par la résurrection, il peut convaincre nos amis, nos collègues, les gens qui nous entourent de cette réalité de l'évangile. Au travers de nos échanges, au travers du partage, du parcours de nos vies, comment Dieu nous a aidés, l'esprit de vie peut communiquer la vie. Il peut communiquer la résurrection, attester de la résurrection dans la vie de celles et ceux à qui l'on témoigne. Don Carson dira encore la chose suivante, « Cette conviction de culpabilité est sans aucun doute communiquée au monde par les disciples de Jésus qui, par la puissance du Saint-Esprit, mènent une vie, elle est dure celle-là, tellement conforme à celle de Jésus qu'elle a sur le monde le même effet que la vie de Jésus lui-même. » Cette vie conforme, cette vie d'obéissance, nous parle des commandements que Jésus nous a donnés, celui d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. C'est à cet amour et ces gens qu'il dira dans le chapitre 13 que tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Notre mission, mes amis, elle est de vivre une vie en communauté, une vie de foi, une vie de grâce, afin que ceux qui nous entourent voient que l'évangile est vrai et qu'il a le pouvoir de changer des vies. Est-ce que ça fait de nous des super-héros ? Non. Mes amis, malheureusement, on se fait du mal dans l'église des fois entre nous. Et la différence, c'est que l'évangile vient me pousser à demander pardon si je suis allé trop loin. Si je n'ai pas été juste dans mes propos, si j'ai fait quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Dans la société, on va couvrir ça parce que c'est l'orgueil qui prime. Il faut que je garde la tête haute. L'évangile va dire, mon ami, j'aurais pas dû te le dire comme ça, mes mots ont dépassé ma pensée, ce n'était pas juste ce que j'ai dit et je te demande pardon. Ça fait la différence aussi pour les gens qui nous regardent évoluer. Quel est notre témoignage dans nos familles ? Est-ce qu'on est capable parfois de revenir et de demander pardon même à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus dans notre famille parce que ce qu'on a fait, ce n'était pas juste ? Ça fait la différence, mes amis. C'est aussi le fruit de l'évangile, c'est aussi le fruit de la grâce, une communauté de grâce, une communauté où on se fait grâce les uns et les autres. Il n'y a pas d'autre programme pour l'Église, mes amis. Des erreurs, on en fera tous. Quelqu'un disait, je ne ferai pas les mêmes erreurs, j'en ferai de nouvelles. Alors je vous demande déjà pardon pour les nouvelles erreurs que je ferai. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Une communauté où on se fait grâce. On est des êtres humains, mais on sait revenir quand ce n'est pas juste. Quand on a été mauvais dans nos paroles, dans nos actions, dans nos pensées, on sait revenir. Une communauté de grâce. Alors peut-être qu'on se dit, mais moi je ne vois pas la puissance de Dieu dans ma vie. Et encore, je vais reprendre cette citation de David Platt, il dit, vous ne vous rendez peut-être pas compte de la puissance de l'Esprit dans votre vie, parce que vous n'êtes pas occupé à faire des choses qu'il est le seul à pouvoir accomplir. Vous savez, si on n'est pas focus sur la mission, effectivement, on ne voit pas l'œuvre de Dieu agir. Et quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit, on voit Dieu agir. On voit des vies transformées. Peut-être que je crois qu'il y a, et d'ailleurs je le crois, qu'il y a un appel pour l'Église de l'Épi à revenir à notre premier amour et à la mission et au rôle du Saint-Esprit sur nos vies. Ensuite, il va énumérer une chose. Donc ça, c'est David Platt, hein, l'auteur. Il va énumérer une chose, une foule de choses qu'on sait tous faire sans le Saint-Esprit. Ben, sans le Saint-Esprit, on peut aimer les gens qui nous aiment. On peut aimer les gens qui nous ressemblent. Sans le Saint-Esprit, on peut donner 1h30 par semaine pour assister à la célébration ce matin. Sans le Saint-Esprit, on peut assister à un séminaire ou à une conférence chrétienne. Sans le Saint-Esprit, on peut mettre de l'argent dans le tronc à la sortie de la célébration. Sans l'aide de l'Esprit, on peut aussi parler de l'Évangile. Mais vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aimer quelqu'un qui est hostile envers nous et notre famille. Vous savez, je faisais souvent la blague avant, mais je disais Dieu m'a appelé à être berger, mais il ne m'a pas dit quelle nationalité, alors je suis berger allemand. Mais c'est pas biblique ça. Le Saint-Esprit m'oblige à aimer quelqu'un qui m'est hostile. Et ça, c'est pas naturel, mes amis. Ça, c'est pas naturel. Le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être disponible pour quelqu'un qui est dans le besoin. Sans Saint-Esprit, tu ne peux pas te réunir chaque semaine avec un frère ou une sœur pour porter son fardeau avec lui. Sans Saint-Esprit, tu ne peux pas donner ton argent durement gagné alors qu'il ne reste plus grand-chose à la fin du mois. Sans Saint-Esprit, tu ne peux pas plaider auprès de tes amis et à tes voisins pour qu'ils se repentent, qu'ils fassent ce demi-tour dont on parlait tout à l'heure et qu'ils croient. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas déplacer notre famille à travers le monde pour l'amour de l'Évangile. Combien de gens ont embarqué famille parce qu'ils avaient un appel pour aller à l'autre bout du monde dans des conditions... Et on entend souvent quand on a nos retours de nos missionnaires. Des gens qui ont sacrifié plein de choses, du confort, parce qu'il y avait un appel particulier qui avait été déposé sur leur vie à eux pour aller être témoins de Christ là où Dieu les envoyait. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Pour être fidèle à la mission à laquelle Jésus nous appelle, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Enfin, Jésus va terminer, je vais redemander à l'équipe de venir tranquillement, par cette conviction de jugement en faisant référence au prince du monde qui est jugé. Vous savez, lorsque Jésus parle du prince de monde, il parle de Satan. Satan qui contrôle l'humanité par ses mensonges. Vous savez, il y a deux pièges que C.S. Lewis a identifiés par rapport à Satan. C'est faire croire aux gens qu'il n'existe pas, ou faire croire aux gens qu'il a plus de puissance qu'il n'en a. Puis il y a des gens, ils vivent dans le fatalisme et de toute façon, j'arriverai pas à m'en sortir parce que de toute façon, Satan est plus fort. Deux pièges. Il nous aveugle contre notre condition. Il nous encourage à l'égoïsme. Il nous encourage au mal en vue de détruire. Il est le menteur et le père du mensonge, nous dit Jean 8. Il ne cherche qu'à voler, égorger et détruire, nous dit Jean 10. Mais mes amis, ce projet de destruction a été vaincu par la victoire de Christ à la croix. La mort de Jésus semblait comme une couronne de victoire pour Satan. Et en fait, c'était en train de signer sa destruction et sa défaite. Par le travail de l'esprit répandu par Christ à la résurrection, l'aveuglement qui frappe les gens qui nous entourent peut laisser place à un discernement, à ce besoin de Christ, à la prise de conscience de ce cœur pécheur. Oui, ce matin, je crois que nous pouvons être libres des mensonges. Oui, je crois que ce matin, nous pouvons être libérés du péché qui nous environne, de ces chaînes qui nous tiennent captifs. Oui, nous pouvons être libres ce matin, parce que le prince du monde est déjà jugé. C'est ça que Jésus nous enseigne. Par sa victoire à la croix, il est déjà jugé. Jésus va conclure en disant, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Les disciples n'ont pas tout compris de ce que Jésus était en train de dire ou en train de faire. Ils n'ont pas réalisé encore ce qui allait prendre place. Mais Jésus leur dit, mais vous inquiétez pas. L'Esprit va vous aider à comprendre ma mort, ma résurrection et mon ascension à venir. Le Saint-Esprit va guider les disciples vers les sources rafraîchissantes de la vérité. Comme un berger qui conduit ses brebis assoiffées vers une source fraîche et rafraîchissante. L'Esprit réitère et développe la vérité enseignée par Jésus. Le Saint-Esprit déclare la révélation de Jésus-Christ aux disciples. Et c'est cet Esprit qui va inspirer les disciples, après toute cette œuvre, alors que Jésus est reparti, pour inspirer ce qu'on appelle notre Nouveau Testament aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui va leur conduire à comprendre tout ce qu'ils ont vécu en cheminant avec Jésus à ses côtés. Ça va prendre la lumière sur la mort, la résurrection et l'ascension de Christ. Mes amis, que ce week-end de l'ascension soit plus pour nous qu'un week-end férié de repos. Alors qu'on va reprendre un chant qui va nous engager en disant « Seigneur, je veux te donner mon cœur tout à nouveau ce matin. » Que nous puissions considérer l'appel de l'Esprit qui est attaché. Vous savez, les ténèbres sont en train de s'épaissir et la lumière a besoin de briller. Et nous sommes appelés à refléter la lumière de Christ. Je crois qu'il y a un appel du Saint-Esprit ce matin à reconsidérer le pourquoi il veut nous remplir, pourquoi il veut nous équiper, pourquoi il veut souffler sur nous encore ce matin. Pas pour notre confort, mais pour ceux du dehors. J'aimais cette phrase de Reinhard Bonnke, l'évangéliste, qui disait que sa mission, c'était de dépouiller l'enfer pour peupler le ciel. Est-ce qu'il y a une église qui a ce fardeau sur le cœur? Pour nos contemporains, dépouiller l'enfer pour peupler le ciel. Nous sommes appelés à être des acteurs de la mission de Dieu pour notre génération. Soyons assurés que nous ne sommes pas seuls, mais que l'esprit de résurrection est en nous. Il est avec nous pour faire son œuvre de vie, son œuvre de dévoilement dans les cœurs de nos amis, de nos proches, de ceux qui nous entourent, de nos collègues, des gens que Dieu met dans notre sphère d'influence. Ils ont besoin d'être transformés par Jésus et Jésus veut se servir de vous pour faire son œuvre. Dieu peut les interpeller, je le répète, au travers de votre histoire, au travers de votre parcours. On aura le privilège dans 15 jours d'entendre quelques bribes de témoignages de ces jeunes. Mais allez les questionner, allez les challenger, savoir ce qui s'est passé dans leur vie en individuel. Ça va booster votre foi. L'évangile fait la différence, mes amis. Des fois, on est découragé, puis on est encouragé par le témoignage de quelqu'un. Je le disais souvent, mais avec Michel, il y a quelques années, avant que notre frère David ne décède, quand il nous a raconté le parcours de comment Jésus est venu le rechercher quelques mois avant que le cancer ne le prenne. Il n'avait pas le cancer quand il a décidé de s'engager pour Jésus. Mais quand on a entendu son histoire de vie, on a vu que Dieu était au rendez-vous, au carrefour de la vie de ce jeune. Dieu fait encore la différence et il veut se servir de vous, mes amis. Dieu veut se servir de vous. Que nous puissions ce matin nous laisser bousculer par le Saint-Esprit. À nous lever de nos fauteuils confortables, je ne parle pas des chaises de la salle, mais de nos vies, pour porter, pour incarner ce message de vie. C'est le seul message qui peut sauver. On peut se lever ensemble ce matin et inviter le Saint-Esprit, puis on prendra ce chant « Je te donne comme une prière ». Seigneur, on vient devant toi, Père, tel que nous sommes ce matin. Reconnaissant que nous avons besoin encore d'une œuvre vivifiante de ton esprit. Père, on est conscient des enjeux qui se passent autour de nous. Et on est conscient, Seigneur, que tu nous as appelés à être tes pieds et tes mains. Mais on a besoin de ton esprit pour nous donner du courage lorsque on témoigne, on parle à des gens, puis il n'y a rien qui se passe, et puis finalement on se dit à quoi bon. On te prie, défenseur, de venir encore nous vivifier ce matin. Je te prie pour une fraîche onction dans ce lieu au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit, encore nous rafraîchir dans notre foi. Seigneur, on croit que tu veux nous utiliser pour être des amis, pour être des collègues, pour être des membres, peut-être des pères, des frères, des sœurs, des cousins, à ton service, au sein, dans les endroits où tu nous as placés. Je te prie, Saint-Esprit, encore de nous remplir ce matin. Alors qu'on va chanter « Je te donne mon cœur, Seigneur », je te prie pour un vent encore, où tu viens nous fortifier chacun individuellement. Seigneur, on ne veut pas abandonner la course, mais on a besoin de toi pour être renouvelé encore ce matin. Merci pour ta grâce, merci parce que tu es le même Dieu en 2023. Tu es encore ce Dieu qui veut nous remplir. Merci parce que l'esprit de résurrection est là dans cette salle ce matin. Il est là parce que tu as décidé de faire de nous ton temple et ta maison. Je te prie, esprit de résurrection, de venir peut-être ressusciter des appels en nous. Peut-être des choses on a dit il y a des années, Seigneur, je ferai ça pour toi. Puis finalement, on a enterré le truc. Je prie pour que ton esprit de vie vienne rappeler quelque chose ce matin dans nos cœurs. Et que là où tu nous as placés, nous puissions être des propagateurs de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus qui fait encore la différence en 2023. Viens et souffle sur nous, Jésus. Amen.
Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends par mon âme, par mon cœur, je te donne tout. Prends racines, je te donne tout. Oh oui, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout mon cœur est à toi, tout à toi.
Oui,
mon cœur est à toi, tout à toi. Donne tout,
oui
mon cœur est à toi, tout à toi.
Oui
mon cœur est à toi, tout à toi.
Merci à l'équipe de louanges, merci Raymond Pierre pour ce bon message. C'est une prière forte qu'on vient de faire monter vers le Seigneur. Mon cœur est à toi, c'est une prière dangereuse. Vous savez qu'il y a des prières dangereuses. Vous risqueriez d'être pris au mot et Dieu nous prend au mot. Il est fidèle. Merci Raymond Pierre pour ce bon message de l'Ascension. Je vous invite à reprendre place. Notre célébration n'est pas terminée. Voulant saluer quelques amis qui sont parmi nous ce matin, il y a le pasteur Jacques Lauchon qui vient de la Normandie avec son épouse. On les salue bien, est-ce qu'on peut les applaudir? Bienvenue Jacques, bienvenue à la famille. Une partie de la famille Lauchon est ici dans l'église. On est heureux de les voir ce matin parmi nous. Soyez bienvenus à Strasbourg et à l'EPI. Et puis, on a une délégation du Sud, une délégation d'un petit peu partout, qui est venue avec Vincent Goupil. Vincent Goupil est le responsable national des Gédéons. Et dans le prolongement du message qu'on a entendu à l'instant, eh bien, nous avons des choses concrètes à partager avec vous. L'Ascension était l'occasion pour les Gédéons de faire leur conférence ici à Strasbourg, leur 41e conférence nationale. Et dans ce cadre-là, ils ont invité les pasteurs de la région à être avec eux. Et je les remercie sincèrement pour cette invitation, pour honorer les pasteurs, ainsi pour montrer que l'Église et le mouvement des Gédéons, comme toutes les missions, travaillent main dans la main, dans l'esprit d'association, pour le salut du plus grand nombre. Alors, bienvenue à Strasbourg, Vincent, ce matin. Bienvenue à la délégation. Est-ce qu'on peut vous voir, la délégation? Voilà, ils sont là. Chaleureuse bienvenue. Vincent.
Non mais, vous m'avez bien regardé? Vous croyez qu'avec ma tête, je vais vous acheter votre bouquin, là? Elle s'appelle Myriam, elle a 20 ans. Elle est assise sur la plus grande place de Montpellier, la place de la Comédie. Et elle regarde les gens avec beaucoup de haine, beaucoup de colère. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà droguée, elle a déjà pris le mauvais chemin. Et personne ne se serait arrêté pour lui demander une direction ou quelque chose. Sauf que deux personnes s'approchent et avec beaucoup d'amour, ils lui tendent un petit livre comme ça et elle leur dit « Non mais vous croyez que je vais vous l'acheter? Vous avez bien vu ma tête ?» Et Myriam les regarde avec colère et il y en a un qui répond « Mais mademoiselle, on ne vous vend pas ce livre. C'est un Nouveau Testament, c'est un cadeau pour vous. Et elle est touchée par la façon dont le cadeau est présenté. Elle sent qu'il y a quelque chose de vrai. Elle prend ce livre et elle le garde sur elle. Et pendant quelque temps, ce livre va faire l'objet de son attention. Elle a commencé à le lire et elle découvre des choses dont elle n'en a jamais entendu parler. Et à un moment donné, ça va même l'énerver et elle va jeter le livre. C'est pas possible. Si c'était vrai, ça se saurait. Et chaque fois, elle le reprend. Mais la vie va... La drogue va l'entraîner toujours plus bas, toujours plus bas. Et à un moment donné, alors qu'elle a 25 ans, elle est passée à la drogue dure qui a commencé à brûler son cerveau. Elle est dans une situation désespérée, une angoisse dans le cœur qui la pousse à revenir voir ses parents et à se jeter sur sa maman et lui dire « Maman, aide-moi. Fais quelque chose pour moi. Fais-moi enfermer pour une cure, mais fais quelque chose pour moi. » Et sa maman lui dit, « Écoute, je vais essayer de t'aider, mais avant, est-ce qu'on pourrait pas aller voir un pasteur ?» Alors là, elle est étonnée. Elle s'attendait pas à cela, alors elle accepte. Et voici que la maman l'amène voir un pasteur, que le pasteur commence à parler dans un entretien avec cette jeune fille et il s'aperçoit que la jeune fille n'écoute absolument pas. Myriam ne comprend strictement rien. Elle est là et même elle se moque de lui. Alors, il dit, écoutez, mademoiselle, je vais prier pour vous. Et il commence à prier pour elle. Et là, dans ce moment où le pasteur prie pour elle, elle se rappelle ce qu'elle a lu dans ce petit livre. Et elle adresse une prière à ce Dieu dont elle a lu quelques passage dans l'écriture et lui dit, écoute, c'est maintenant, hein. Sous-entendu, écoute, si tu m'entends, si tu existes, c'est maintenant qu'il faut que tu fasses quelque chose. Et ça a été maintenant. L'Esprit de Dieu est tombé sur elle. Et elle a ressenti l'amour profond du Seigneur. Et là, dans ce moment avec ce pasteur qui priait pour elle, ses yeux se sont ouverts. Il y a quelque temps, j'étais dans une église de Montpellier. Je présentais comme ça les Gédéons, comme je fais ce matin au milieu de vous. Et à la fin, comme je vais faire tout à l'heure à la sortie, je me tenais là, prêt à recevoir les gens qui avaient besoin de renseignements, ceux qui avaient eu le cœur touché pour venir rejoindre les Gédéons, et puis ceux qui voulaient simplement prier pour nous apporter leur témoignage d'affection. Et à un moment donné... je vois, tout le monde était parti, il ne restait plus qu'une femme, elle avait un mouchoir à la main et on sentait qu'elle avait été profondément émue. Alors elle s'approche et puis elle me dit, monsieur, je vais vous dire quelque chose, je m'appelle Myriam et voilà mon histoire. Elle était maintenant mariée, mère de 3 enfants, elle avait suivi le Seigneur et elle était membre de cette église. Et quand j'ai entendu ce message, ça a touché mon cœur. Merci au pasteur de m'avoir laissé ce temps de parole. Merci à l'équipe d'avoir pris le risque de me laisser vous parler. Je ne vais pas trop vous parler des Gédéons. Je voudrais vous dire ce que Dieu fait à travers la parole qui est distribuée. Et sachez une chose, c'est que tous les témoignages que j'apporte, eh bien, c'est parce que ce n'est pas parce qu'on a le sigle Gédéon que ça a marché, mais parce que c'est la parole de Dieu. Et si vous faites la même chose de votre côté à donner la parole de Dieu, elle ne reviendra pas à vous sans avoir accompli son effet. Amen. C'est ce que nous croyons. Les Gédéons, ce sont des membres des églises. C'est une association d'hommes qui ont des responsabilités, des professionnels, qui ont entendu l'appel de Dieu, qui ont sur le cœur l'image de l'enfer et de tous ceux qui nous entourent et qui sont destinés. On veut vider l'enfer pour remplir le ciel également, comme il a été dit. C'est une association qui existe depuis 120 ans. Elle a commencé très modestement par deux hommes d'affaires qui se sont rencontrés opportunément alors qu'ils étaient en déplacement. Ils ont prié ensemble, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, on est loin de l'église et puis on contacte les hôtels. Et au départ, on plaçait des bibles dans les hôtels. Et puis petit à petit, on a commencé à étendre les domaines dans lesquels nous allons, alors pas les domaines où va l'Église. Non, on est complémentaire de l'Église, surtout pas empiéter sur le domaine de l'Église. Me demandez pas, par exemple, de m'acheter un Nouveau Testament. Ça, c'est fait déjà. Vous avez les Nouveaux Testaments, la bibliothèque. Non. Nous allons donner à ceux qui sont perdus. On va les donner aux étudiants, aux lycéens. On va les donner dans les hôtels, on va les mettre sur les tables de nuit, on va les laisser témoins, muets, mais présents de la grâce de Dieu pour tous ceux qui rentreront dans ces chambres. Nous allons les confier et accompagner les aumôniers lorsqu'ils visiteront les prisons, lorsqu'ils visiteront les militaires, lorsqu'ils visiteront les hôpitaux, avec nos épouses. Car vous savez que si on s'engage tout seul alors qu'on est un couple, eh bien on devient Gédéon à 50% seulement de rendement. À deux, on devient Gédéon à 100%. Et avec nos épouses, et nos épouses ont un rôle particulier, elles donnent un Nouveau Testament blanc pour tous ceux qui ont des blouses blanches, toute la partie médicale et paramédicale. Zora est d'origine algérienne, musulmane, fille de musulmane, arrière-petite-fille de musulmane. Et certainement, ses enfants seront musulmans. Mais voilà qu'elle tombe malade, elle est hospitalisée dans un hôpital de Mons, en Belgique. Et alors qu'elle se promène dans l'hôpital, elle voit une bibliothèque, elle rentre et parmi tous les livres qu'il y a, il y a un petit livre blanc comme cela qui attire son attention. Et Zora va le prendre, demande l'autorisation de l'emmener et elle part dans sa chambre. Zora a des doutes, a des questions et elle va ouvrir toute seule le Nouveau Testament alors qu'elle est isolée de sa famille dans sa chambre d'hôpital. Elle commence à lire la parole de Dieu et la parole de Dieu rentre dans son cœur. Rentre dans son cœur. À la fin de ce Nouveau Testament, nous avons ce que nous appelons le grand plan du salut, le GPS pour aller au ciel. Et avec des versets bibliques comme Jean 3,16, on découvre le plan de Dieu pour sauver la vie de sa propre vie. Et Zora lit ces passages, ces versets, et puis elle arrive au moment où il est écrit « Ma décision de recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur ». Je reconnais devant Dieu que je suis pécheur, je crois que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour moi, qu'il est ressuscité pour ma justification, je le reçois maintenant et je le reconnais pour mon sauveur personnel. Elle est convaincue, elle croit que Jésus est le Fils de Dieu, elle, la musulmane, elle met son nom Zora et elle met la date à laquelle elle signe, c'était le 11 février. Ah, elle est heureuse. Elle ferme son Nouveau Testament et là, l'adversaire vient lui susurrer des choses. Oh, mais que va penser ma famille? Mais que vont dire mes parents, mes frères, mes sœurs? Et là, elle sent toute le poids qu'elle a sur les épaules qui revient. Alors, elle va faire tout ce qu'elle peut pour aller chercher un blanco. Vous savez, ce blanco-là, ce blanc qu'on met sur nos erreurs, et elle veut effacer son nom, elle prend le blanco et elle met une bonne couche dessus et le nom ressort, Zora. Le blanco ne fonctionne pas bien, alors elle le secoue bien une deuxième fois et là elle met deux couches, là ça quelque chose d'épais, là vraiment elle est heureuse, elle souffle et Zora ressort. Et là elle se dit, ce qui est écrit est écrit. Je me suis engagé. Et dans ce petit miracle du nom qui ressort, elle trouve la foi, la force de dire à sa famille, je suis devenue chrétienne, de rejoindre une église évangélique et de se faire baptiser. Quelle grâce, amen. Quelle grâce. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui se sont dit « J'aurais bien aimé être à la place de cet homme qui a donné à Myriam le Nouveau Testament ou de cette femme qui a placé ce Nouveau Testament blanc dans la bibliothèque ?» Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit « J'aurais bien aimé être à la place. » Eh bien, mon ami, tu peux être à cette place. Si tu fais confiance à la parole de Dieu, si tu vas la donner. Il y a un millier de Gédéons en France qui sont à cette place pour donner la parole de Dieu. Mais il y a tellement de besoins qu'il faudrait qu'on en soit 10 fois plus. Il y a une belle équipe à Strasbourg, je vous promets, ce sont des gens extraordinaires. Vous avez Roger Benzakem qui est au milieu de vous, vous en avez d'autres. Hein, voilà, mais une si belle église, si qualifiée par la présence du Saint-Esprit, comme nous disait notre frère, n'y a-t-il pas des hommes, des femmes avec leurs maris qui veulent rejoindre notre association? Vous êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus. Dans le monde, les Gédéons distribuent dans plus de presque 110 langues différentes, distribuent gratuitement à des personnes qui ne connaissent pas Christ, eh bien, distribuent la parole de Dieu de façon intensive. Et depuis 1908, nous avons commencé à comptabiliser le nombre d'écritures. Eh bien, nous avons distribué 1, 2, 10, 20, 100 millions d'écritures. Et en l'an 2000, on est arrivé au milliard d'écritures distribuées. Et puis on a accéléré. Et puis en 2015, on a atteint les 2 milliards d'écritures. Et aujourd'hui, on est à 2 milliards 500 millions d'écritures placées ou distribuées, données la main à la main. C'est ça la semence. C'est la semence que nous voulons voir lever. Et pour que cette semence lève, eh bien, il faut que l'Église prie, que l'Église y croit. Parce que ce n'est pas les Gédéons qui vont accueillir cette semence, c'est l'Église. Les Gédéons ne font pas des réunions, d'évangélisation. On n'est pas là pour former, on ne fait pas de culte. On est membre de bon renom de l'Église locale. On est enraciné dans l'Église locale. Nous sommes que le bras missionnaire de l'Église. Vous savez, laissez-moi vous dire... C'est extraordinaire de rejoindre les Gédéons. Ma première distribution, j'étais un membre bouillant de mon église. Je faisais bien des choses dans mon église. J'aidais le pasteur dans la prédication, dans les visites. J'étais membre du bureau, je chantais à la chorale, je faisais le ménage. Enfin, tout ce que je pouvais trouver à faire dans l'église. Mais je ne faisais rien dehors. Et quand je suis devenu Gédéon, je me suis retrouvé un jour devant un collège à Saint-Rémy-de-Provence. Il était tombé un petit peu de neige, un peu un temps comme vous avez ici l'hiver, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il se passe? Je me sentais tout petit. Ah, mon cœur battait fort, c'était la première fois et je commençais à distribuer timidement. J'ai un cadeau, voilà. Et à un moment donné, 3 jeunes filles viennent vers moi et je leur dis, c'est un cadeau, c'est pour vous. Elles prennent chacun un exemplaire, elles lisent le Nouveau Testament, elles se mettent à rire et elles se moquent. Oh, que j'étais mal. Sincèrement, j'aurais eu de quoi creuser, je me serais enterré. Et il y en a une qui a dit un livre tout neuf, comme ça. Je vais ouvrir au hasard et je vais lire quelque chose. Elles ont dit, ouais, fais-le. Alors elle a ouvert au hasard, elle a pris un verset au hasard, un livre qui n'avait jamais été ouvert, et elle a commencé à proclamer tout au fort ce verset. Elle a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu était avec moi, là. Devant ce collège, et cette jeune fille, lorsque la parole de Dieu a été proclamée par sa propre bouche, elles ont toutes été, plus personne ne riait, elles ont pris le Nouveau Testament, et elles l'ont mis dans leur sac, elles sont parties. Voilà ce que l'on vit lorsque l'on obéit au Seigneur et qu'on va distribuer sa parole. Que toute la gloire revient à Dieu. Amen. Merci de m'avoir reçu. Merci de prier pour nous. Merci de nous recevoir encore peut-être pour d'autres témoignages. Merci à ceux qui ont senti l'appel de venir me voir tout à l'heure et de s'engager avec nous dans une œuvre glorieuse dans laquelle on vit des expériences extraordinaires. Merci de nous soutenir aussi financièrement. 1 euro, eh bien c'est un Nouveau Testament distribué quelque part dans le monde. Et ça c'est formidable. ami.gédéon.fr, vous tapez ça sur Google. Et vous pouvez nous aider de toutes les manières. Merci.
Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup. On vous encourage vraiment à prendre contact avec Vincent à la sortie. Et puis, nous avons aussi un groupe, quelques amis parmi nous aussi, avec lesquels vous pourrez vous entretenir. Je pense à Bernard Kiefer, qui n'est pas forcément là ce matin, mais avec lesquels vous pourrez vous entretenir pour donner suite à ces interpellations. Notre célébration se termine. On est tellement heureux d'avoir pu être ensemble. À vous qui êtes en ligne, on vous souhaite un bon dimanche, une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse.